le débat africain. Alain Foucault.
Instrument de servitude coloniale ou garantie de stabilité monétaire. Faut-il le quitter ou le conserver encore et jalousement? Est-il une chance ou un frein pour les économies des
14 pays qui l'utilisent? Doit-il ou non être à nouveau dévalué comme l'annonce de façon persistante une certaine rumeur dans les milieux financiers? Le franc CFA. Bien qu'il ait presque toujours suscité des débats en Afrique, jamais il n'aura autant alimenté les passions. Avec des mouvements dans les rues de certaines capitales francophones et des discussions enflammées sur les réseaux sociaux. Le point d'orgue a été atteint le mois dernier avec l'action de l'activiste panafricaniste Kémi Séba qui a brûlé en public un billet de 5000 francs CFA. Pour la première fois, l'un des gardiens, l'un des principaux gestionnaires de cette monnaie, celui de l'Afrique de l'Ouest, a accepté de sortir du mutisme que s'étaient imposé les autorités monétaires pour répondre aux différentes questions que se posent et les pourfendeurs et les défenseurs de ce CFA. Monsieur Tiemoko Meliekone, le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, est notre invité aujourd'hui dans la première partie de ce débat. Dans la seconde, nous recevrons quelques experts, quelques spécialistes pour poursuivre cette discussion sur le CFA. Bonjour, monsieur le gouverneur.
Bonjour, monsieur Foucault.
Alors, comment expliquer que plus de 55 ans après les indépendances, les pays, anciennes colonies de la France, aient toujours la même monnaie, même si on a essayé de corriger l'acronyme CFA, ça ne vous dérange pas? Est-ce que cela veut dire que les Africains ne peuvent pas créer une monnaie?
Je ne suis pas du tout gêné. Ce qui me gêne plutôt, c'est de devoir expliquer et convaincre que des pays africains, après leur indépendance, qui ont délibérément décidé d'avoir une monnaie, et une monnaie africaine, et de la mettre comme un ciment dans une intégration monétaire, qu'on soit obligé de dire que c'est leur monnaie. Parce que c'est leur monnaie. Et pourquoi c'est leur monnaie? L'acronyme n'a pas beaucoup d'importance. D'abord, c'est vrai qu'il y avait une monnaie qui circulait pendant la colonisation, mais qui se sont appropriées.
Quand vous dites ça, on a un peu du mal à comprendre, monsieur le gouverneur. Oui. S'approprier la monnaie alors qu'on la fabrique ailleurs. S'approprier la monnaie alors qu'on sait très bien qu'elle s'arrime sur le trésor public français. C'est pas s'approprier la monnaie, ça.
Si, s'approprier la monnaie, parce que la monnaie, c'est pas quelque chose qui se fabrique. La monnaie, c'est un ensemble de mécanismes qui permettent justement à un pays d'organiser ses paiements et d'organiser les transactions dans le pays. C'est ça, la monnaie.
Ce mécanisme mais qui se matérialise quand même par ces billets-là. Oui, mais tout le monde se bat pour avoir ces billets-là.
Oui, c'est moins
qui viennent d'ailleurs.
Parce que les billets qui viennent d'ailleurs, c'est purement commercial. Parce que quand on fabrique un billet, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent dans la composition et dans la fabrication d'un billet. Nos économies n'ont certainement pas, et c'est valable pour beaucoup de pays, n'ont pas les moyens de pouvoir fabriquer sur place parce que ce ne serait pas rentable.
J'ai envie de comprendre.
Oui.
Vous voulez dire qu'aujourd'hui, en 2017, les Africains ne sont pas capables de fabriquer leur monnaie à eux, qu'ils sont obligés retourner à l'ancienne métropole pour fabriquer leurs billets?
Si les statistiques que j'ai sont exactes, je crois qu'il n'y a que 8 ou 9 pays sur les 52 pays africains qui fabriquent leur monnaie. C'est peut-être tout simplement parce que soit la taille de leur économie et les besoins ne peuvent pas justifier l'implantation d'une fabrique de monnaie. Parce que d'abord, c'est une technologie qui est très chère, qui évolue très vite, et puis c'est une technologie qui est très concurrencée par les faussaires.
Mais comment convaincre l'autre que, bon, ok, nous ne fabriquons pas notre monnaie, et que celui qui fabrique n'a pas la main dessus? Est-ce que celui qui fabrique n'en fait pas ce qu'il veut? Est-ce que ce n'est pas en réalité une façon pour la France de garder la main sur ses anciennes colonies?
Non. Non, pas du tout. Vous voyez, la grande différence qu'il y a entre ceux qui gèrent la monnaie et qui gèrent même ce qu'on appelle les signes monétaires et le public, c'est que pour nous, c'est du papier fiduciaire dans un premier temps. C'est comme une imprimerie qui fabrique des imprimés, avec la différence que ces imprimés ont une caractéristique qui est particulière parce que c'est des billets de banque.
Vous voyez, donc vous avez le contrôle dessus?
Absolument, parce que la quantité, c'est moi, c'est nous qui la donnons. Les éléments qui doivent figurer, c'est nous qui les donnons. Donc, il n'y a pas. La France ne décide pas. On le fait avec la France, vous savez pourquoi? Parce que un billet, pour arriver à avoir un billet qui soit parfait et qui convienne à l'utilisation des populations, ça met du temps. Parce que il y a des effets climatiques. Un billet qui circule dans une partie de l'Afrique qui est humide n'a pas la même consistance ou ne doit pas avoir la même consistance qu'un billet qui circule dans le Sahel. Et pour qu'un billet
arrive... Donc, ce n'est pas la volonté de la France que ce soit fabriqué là-bas?
Non. Pas du tout. C'est nous qui décidons que ce soit fabriqué là où nous souhaitons que ce soit fabriqué. La seule chose qui peut changer, c'est que les prix, nous sommes très sensibles aux prix, parce que autant nous ne pouvons pas fabriquer le billet parce que ça coûterait trop cher pour nos petites économies, autant nous sommes très regardants sur les prix.
Sur les prix, je sais que c'est votre cheval de bataille, la lutte pour la stabilité des prix. Mais est-ce que c'est l'essentiel dans une économie? Est-ce que ça ne bloque pas l'octroi des crédits et la croissance?
Non. La stabilité des prix, vous savez pourquoi elle est importante pour les banques centrales et elle est importante pour les économies? C'est parce que tout simplement, ça permet d'abord de maintenir le pouvoir d'achat des populations. Ça, c'est important. Et dans notre zone, on peut dire que le taux d'inflation a été jusqu'ici très bas parce qu'il est très contrôlé, parce que nous suivons. Et ici, c'est peut-être là où la ménagère va au marché en n'étant pas inquiète, parce qu'elle ne sera pas surprise que le prix du riz ait été multiplié par 10 ou ait augmenté de façon incontrôlée. C'est aussi le cas d'un malade qui va dans une pharmacie, il sera sûr que les médicaments auxquels il a accès d'habitude n'augmenteront pas de façon exponentielle et ne lui permettent pas de pouvoir en disposer. C'est ça que ça veut dire. Parce que si ces pouvoirs d'achat ne sont pas maintenus, alors on a des fraudes sociales. Mais pour les entreprises, c'est beaucoup plus grave. Parce que ça veut dire qu'elles vont produire avec des coûts qu'elles ne maîtrisent pas, qui peuvent changer du jour au lendemain. Et alors, elles produiront et elles vendront aussi des marchandises ou en tout cas des services qui vont fluctuer.
En fait, on reste dedans par confort, c'est-à-dire...
Non, ce n'est pas un confort, c'est une nécessité. C'est une nécessité parce qu'une économie, pour pouvoir croître, a besoin qu'il y ait des visions, que les gens aient une vision, qu'ils puissent planifier, qu'ils puissent se projeter éventuellement. C'est ça qui permet justement à une économie de projet. Mais si je ne sais pas, en construisant une usine aujourd'hui, que demain je pourrais vendre les produits parce que les prix auront tellement augmenté que je ne serai même pas capable de vendre ces produits, mais aujourd'hui je ne construis pas l'usine. Mais si j'en ai une claire idée, alors dans ce cas-là, je me projette dans le temps et je le fais. Et c'est ça qui est important.
Mais est-ce que quelqu'un qui vous permet ainsi de vous arrimer à la monnaie internationale ne décide pas pour vous? Est-ce que vous, monsieur le gouverneur, vous n'allez pas prendre vos ordres à Bercy?
Certainement pas. Certainement pas. Et ça n'a absolument rien à voir. Il y a des structures, il y a à un certain moment des rencontres que nous avons, mais qui sont de nature tout simplement à passer en revue l'ensemble des accords que nous avons, voir leur fonctionnement, s'il est optimal ou s'il n'est pas optimal. Mais aucune décision qui est prise ici, en tout cas dans cette maison, tant dans la gestion de la maison que dans la gestion de la politique monétaire, n'est prise à Bercy.
Elle n'est pas prise à Bercy, mais il y a quand même un représentant de l'État français au conseil d'administration de la BCAO et même de la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale. Est-ce qu'il ne vient pas là pour veiller à ce que son argent soit mieux géré, c'est-à-dire qu'il ait un regard sur ce qui se passe ici?
Il n'a pas le pouvoir de décision. Il n'a même pas, comme j'ai entendu dire à certains moments, un droit de veto. Il n'a pas de droit particulier par rapport à un autre administrateur. Il exprime ses points de vue et ça c'est utile parce qu'on ne peut pas non plus, dans une banque centrale, gérer une monnaie qui est d'essence publique en étant dans le flou. Il faut que ce soit dans la transparence la plus totale. Si on doit prendre des décisions en votant, ce sera à la majorité simple. C'est ça qui est prévu dans les textes.
Il existait un seul CFA.
Oui.
Jusqu'à une certaine date, il y avait un seul CFA. Mmh. Et du jour au lendemain, qui décide qu'il va y avoir deux CFA? Est-ce que ce n'est pas une façon, comme on le dit un peu partout et on l'écrit partout, pour celui sur qui on a arrimé cette monnaie, c'est-à-dire la France, de diviser pour mieux régner, d'avoir une zone CFA de la CEMAC, une autre zone BCAO, alors que les deux réunis auraient été beaucoup plus forts?
Oui, certainement, mais là encore, il y a une confusion. Parce que historiquement, les deux zones n'ont pas été créées au même moment.
Mais ils avaient le même CFA jusqu'à une certaine
période. Ils ont toujours le même CFA. Mmh. Mais la précision historique est importante. Il y en a une qui a été créée en 62, il y en a une qui a été créée en 72. Donc déjà, ce n'est pas la même période. Ce dont vous parlez, c'est tout simplement qu'à un certain moment, les biais de la zone CEMAC et les biais de la zone UMOA s'échangeaient sans difficulté.
Tout à fait.
Mais ce n'est pas la France. C'est un fait historique qui est à la base de cela. Parce que le fait justement que nous ayons eu une monnaie convertible a fait que d'autres opérateurs et d'autres pays se sont intéressés à cette monnaie. Et par l'intermédiaire justement des biais, qu'ils exportaient parce que les billets s'échangeaient partout dans le monde à l'époque. Vous alliez partout dans le monde pour utiliser votre billet CFA. Et donc, d'autres pays, d'autres structures l'ont utilisé. Je vous donne un exemple. Au moment où on a décidé de ne plus racheter, par exemple, nos billets à l'extérieur, j'étais à l'époque à Abidjan, nous avons eu un entretien téléphonique avec un opérateur d'un pays de la sous-région que je ne veux pas citer, tout simplement, et qui m'a dit, écoutez, moi j'ai 19 cantines de billets de 5
000. Pas difficile de voir quels sont ces pays-là, le Nigeria,
non, je ne citerai pas de pays, mais qui dit, j'ai 19 cantines de billets de 10 000 francs. Qu'est-ce que je fais? J'ai dit, comme nous avons décidé de ne pas racheter, alors tout ce que vous pouvez faire, c'est de rentrer avec ces francs CFA dans le pays et puis de les déposer dans une banque. Mais ce qui n'a pas été fait, parce qu'il faut pouvoir justifier à la douane pourquoi vous avez 19 cantines de billets de 10 000 francs et qui ne fait pas partie de la monnaie qui circule dans votre pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, les pays en ont fait une monnaie de réserve. Alors, le problème, c'est que ça coûtait de plus en plus cher à nos économies de pouvoir financer aussi les opérations de ces pays par les sorties massives de billets. Donc, nous avons arrêté de racheter. Mais en le faisant, ça bloque naturellement, puisqu'il y a des pays entre nous et l'autre zone. Donc, ça bloque naturellement un certain nombre de transferts et de circulation de billets entre les deux zones. Nous sommes en train de réfléchir pour reprendre cela. Mais qu'est-ce qui bloque? C'est qu'en temps, il y a eu de nouvelles normes sur le financement du terrorisme, sur le blanchiment, et c'est des règles qui sont très rigides et qui doivent être respectées scrupuleusement.
Mais, que quelqu'un qui vient d'Afrique centrale ait son CFA, ne puisse pas le convertir en CFA d'Afrique de l'Ouest, ça a quelque chose de troublant. Vraiment.
Oui, par rapport au passé, effectivement, ça peut être gênant pour les opérateurs. Mais il y a mieux, parce que ce que nous faisons, c'est que c'est les billets qui ne se déplacent pas, mais les opérations se font, parce que les opérations normales se font par le circuit financier normal. Il n'y a que le déplacement du billet qui pose problème.
Ce qui est important dans un monde où l'informel est quand même assez important.
Non, c'est important parce qu'il faut aussi que de plus en plus les paiements soient sécurisés et qu'ils soient faits dans des cadres qui sont appropriés pour cela. Maintenant, les petits déplacements avec les petites sommes, c'est des choses que nous sommes en train de régler de manière à ce qu'on n'échappe pas à ces contrôles qui sont faits.
Est-ce qu'on ne se libérera donc jamais de ce CFA? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas un moyen de sortie pour avoir quelque chose qui soit équivalent?
Mais on ne sort pas d'une monnaie qui vous appartient. Le CFA nous appartient. Donc, vous voulez qu'on sorte et qu'on aille où? Maintenant, si c'est une question tout simplement d'appellation, pour dire...
L'acronyme, mais quand même, reste quand même...
Oui, mais le CFA, c'est nous. C'est nous, c'est notre monnaie. C'est une monnaie qui a été appropriée. Si vous suivez un peu la chronologie des choses qui se sont passées, même l'institution, la BCAO, qui gère cette monnaie, elle a été africanisée. Depuis 1978, il n'y a aucun cadre extérieur à la BCAO. Le premier gouverneur a été nommé en 1975. Abdoulaye Fadiga. Et tout paie à son âme. Et tout ce qui a été construit comme réforme pour que nos pays arrivent aujourd'hui à des zones de croissance et des croissances les plus fortes dans le monde actuellement, mais c'est parce que tout simplement il y a eu un travail qui a été fait pour cette monnaie.
Mais on sait que dans les affaires, il y a toujours des intérêts. Si la France accepte cet arrimage jusqu'à cette date, elle aussi en profite, parce qu'on a écouté le président Emmanuel Macron dire que le CFA sert à l'Afrique. Est-ce qu'elle ne sert pas aussi les intérêts de la France?
Ce qui est important pour nous et que nous connaissons, c'est ce que ça apporte à nos pays.
Oui, est-ce que ça apporte aussi à la France ou pas? Je veux dire, avec les réserves d'échange que l'on dépose au Trésor français, qui représentent plusieurs cinquantaines de milliards, si j'ai bien compris, ça pourrait être de l'argent qui serve à l'économie, au développement de l'économie de tous les jours.
Mais
c'est de l'argent qui manque à l'investissement.
Je suis désolé de vous dire que ceux qui disent ça ne connaissent pas l'économie française et ne connaissent pas les besoins de cette économie. Ce que nous avons au compte d'opération, c'est une goutte d'eau. C'est même pas une goutte d'eau.
Mais ça représente beaucoup pour nous.
Ça représente beaucoup pour nous, mais ça représente pratiquement rien pour la France. Parce que nous avons les chiffres. Je crois que ça a besoin qu'on mette en place les chiffres et qu'on dise. C'est rien du tout. Mais par contre, c'est important pour nous. Parce que, voyez-vous, si aujourd'hui les investisseurs qui viennent investir dans nos pays n'avaient pas la possibilité, avec la convertibilité du franc CFA, de pouvoir faire des transactions extérieures, mais il y a longtemps que les investissements se seraient arrêtés. Si nos propres opérateurs ici qui ont besoin de faire des transactions à l'extérieur ne pouvaient pas le faire parce que la monnaie n'est pas convertible, mais ça sera arrêté. Ce que nous devons prendre en considération, c'est ce que nous, ça nous apporte. Et ça, nous le savons.
Mais on paye pour ça aussi. Là, avec la chute des cours des matières premières, les réserves dans le compte d'opération d'échange ont baissé considérablement. Et de façon presque officielle, on parle de plus en plus d'une menace de dévaluation. Après celle de 94, on risque de tomber encore dans une dévaluation. Est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui, monsieur le gouverneur? Est-ce que ce n'est pas une menace encore, une façon de fragiliser les économies de cette région?
Vous savez, si vous demandez à un gouverneur de banque centrale pour de vous dire s'il va avoir une dévaluation ou pas, je suis sûr que vous n'attendez pas à une réponse.
Ça, c'est clair. On l'avait déjà vu pour la dernière dévaluation jusqu'à la veille.
Mais si vous me demandez de vous dire quelque chose sur la situation actuelle, moi, je pense que la dévaluation n'est pas la seule solution au problème de baisse des réserves de change, de baisse d'activité et de baisse éventuellement des réserves de change. Parce que cela est dû à quoi? Cela est dû tout simplement à ce que les prix des matières premières, de certaines matières premières, ont baissé. La solution définitive, et ce que nous recommandons en tant que banque centrale, c'est la diversification de nos économies.
Mais on dit ça depuis longtemps, on ne voit pas ça se diversifier.
Oui, ça se diversifie, mais ça prend peut-être du temps. Vous savez, pour dire que je construis une usine pour traiter sur place un certain nombre de produits, ça suppose que vous ayez les moyens de construire cette usine. Si un privé ne vient pas construire, ça veut dire que vous avez les marchés que vous pouvez conquérir. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses.
Mais en regardant ces économies, malgré la chute des cours des matières premières et le fait qu'une bonne partie de l'autre zone, CEMAC, de ces CFA, ait sérieusement consommé une partie de ces réserves, est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui de l'évaluer? Quelle est la solution pour éviter cela? Parce que il y a une vraie menace de crise sociale.
D'abord, la dévaluation n'est pas inscrite à un ordre du jour que je connais.
Vous ne le diriez pas de toute façon.
Et de plus, ce que je vous dis, c'est que ce n'est pas la seule solution. Parce qu'il y a d'autres solutions qui peuvent permettre de rétablir les équilibres sans que ce soit une dévaluation. La solution, justement, c'est de faire de telle sorte que les économies progressent en se diversifiant.
Mais quand c'est le gouverneur qui dit ça, on se dit, mais qu'avez-vous fait pour diversifier cette économie?
Notre rôle, c'est de soutenir l'économie financièrement. Mais on ne le fait pas directement, parce que nous finançons les banques et les institutions qui financent les économies. Nous contribuons à structurer et à organiser justement ce financement.
Alors, nous arrivons presque au terme de cet entretien et j'ai envie qu'on parle à monsieur tout le monde. Ceux qui défilent dans la rue, ceux qui ont manifesté, c'est monsieur tout le monde, c'est pas des spécialistes de la finance. Doit-on conserver le CFA? C'est utile pour nous, le CFA?
Mais très utile.
Pour madame Koulibaly ou pour madame Traoré qui est à Bamako, elle se dit, pourquoi est-ce qu'on garde la monnaie du blanc? Vous lui dites quoi?
Moi, je lui dis que ce n'est pas la monnaie du blanc. Dès le départ, ce n'était pas la monnaie du blanc et ce ne sera pas la monnaie du blanc. Maintenant, si nous décidons que c'est la monnaie du blanc, alors à ce moment-là, nous le donnons au blanc, mais ce n'est pas la monnaie du blanc.
À quoi ça lui sert, à elle, la stabilité monétaire dont vous parlez? Que garantit l'euro?
La stabilité, pour elle, c'est important.
En quoi?
Parce que quand elle va au marché, c'est une mère de famille et qu'elle doit faire les dépenses de sa maison, elle le fera parce qu'elle sait qu'elle a les revenus pour le faire. Mais si les prix augmentent tous les jours, il arrivera un jour où elle ira au marché, elle ne pourra pas acheter ce dont elle a besoin pour nourrir sa famille parce qu'elle ne peut plus supporter les prix, parce que ses revenus n'ont pas augmenté de la même façon. Il y a des pères de famille qui ont des enfants qui sont à l'extérieur et à qui ils envoient régulièrement
de l'argent
pour leurs bourses. Si la monnaie n'était pas convertible, ce n'aurait pas été possible. Mais c'est parce qu'elle est convertible qu'ils peuvent le faire. Et si la stabilité n'est pas aussi observée, ça veut dire que tous les deux mois, ils vont devoir envoyer le double ou le triple de ce qu'ils font.
Ils ne peuvent pas prévoir, en gros.
Ils ne peuvent pas prévoir sur la durée. Et ils ne peuvent même pas, à certains moments, le faire parce que leur revenu ne leur permettra de faire.
Est-ce que c'est envisagé la création d'une monnaie?
Non, africaine. Parce qu'il y a une monnaie. Peut-être que si vous dites que l'articulation de cette monnaie peut changer, peut évoluer, mais ça évoluera avec les besoins des économies. Parce que c'est ça qui est sage.
Merci à vous, monsieur le gouverneur, de nous avoir reçus.
Merci beaucoup.
Cet entretien est à présent terminé. Nous nous retrouvons pour la seconde partie en débat avec des experts. À très vite.